Merci à tous d'écouter RFI. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Il est midi et demi en temps universel. 14h30 à Paris, c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. Au Mali, des dizaines de personnes prises en otage la semaine dernière alors qu'elles circulaient en bus dans le centre ont été libérées. Mais des dizaines d'autres restent entre les mains de leurs ravisseurs, des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En Gambie, l'Assemblée vote la loi créant le bureau du procureur chargé d'enquêter sur les crimes de l'ère Yahya Jammeh. Le procureur sera indépendant et pourra être gambien ou étranger. Vital Kamerhe devrait faire son retour à la présidence de l'Assemblée nationale. Il a remporté hier la primaire qui était organisée au sein de la majorité présidentielle. Dans la foulée, il a été reçu par Félix Tshisekedi, à qui il a promis loyauté et efficacité.
Le rapport annuel d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le monde, comment s'en sort l'Afrique sur une planète en crise? On en parle avec Samira Daoud, directrice Afrique de l'Ouest et du centre d'Amnesty. Elle est l'invitée aujourd'hui d'Afrique Midi.
Et puis une menace financière sur la Biennale de Dakar. Le compte n'y est pas, alors que le grand rendez-vous de l'art contemporain africain doit s'ouvrir le 16 mai. Au Mali, une partie des otages enlevés mardi dernier près de Bandiagara a été libérée. Plus d'une centaine de passagers circulant dans trois autocars avaient été interceptés par des hommes armés, des djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda selon plusieurs sources. On apprend donc que plusieurs dizaines de personnes ont été libérées. David Baché, le tri ne s'est pas fait au hasard.
Oui Nicolas, les femmes et les enfants qui étaient à bord des trois autocars interceptés ont été libérés sur le champ. Dans les jours qui ont suivi l'enlèvement, des hommes ont également retrouvé la liberté, essentiellement des habitants de villages ayant conclu des accords locaux avec la Katiba Massina du JNIM, liée à Al-Qaïda. Plusieurs dizaines de personnes ont ainsi été relâchées, plusieurs dizaines restent détenues, aucun chiffre fiable n'a pu être recoupé. Il faut dire que le nombre total de passagers lui-même n'est pas connu, les autocars étant souvent surchargés, a fortiori, comme c'était le cas ce jour-là, les jours de marché. L'enlèvement n'a pas été revendiqué, mais les nombreuses sources locales jointes par RFI l'attribuent unanimement à la Katiba Massina, qui compte d'ailleurs plusieurs raptes similaires à son actif. Le précédent le plus récent remonte à novembre dernier. Les passagers des autocars interceptés à l'époque, dans le même secteur, avaient déjà été partiellement libérés, selon la même logique.
Alors effectivement, dans le centre du Mali, les populations de dizaines de communes ont dû accepter ces dernières années de se soumettre aux règles des djihadistes.
De leur payer un impôt, de se conformer aux manières de prier ou encore aux règles vestimentaires qu'ils imposent, et cela afin de pouvoir circuler librement et de poursuivre leurs activités agricoles. Ce sont les otages venant de communes n'ayant pas conclu ce type d'accords locaux avec les djihadistes qui demeurent toujours détenus. Ces derniers jours, des manifestations ont été organisées dans plusieurs localités de la zone pour demander aux autorités maliennes de transition de s'impliquer davantage afin de libérer les otages et de sécuriser cette route nationale 15, régulièrement attaquée par les djihadistes.
En Gambie, un pas de plus vers le jugement des crimes commis sous la dictature de Yahya Jammeh. L'Assemblée nationale à Banjul a voté deux lois. Sébastien Nemetz, l'une détaille la suite de la procédure judiciaire, l'autre crée un bureau du procureur spécial.
Oui, et d'après les textes, le procureur sera indépendant, il pourra être gambien ou étranger, même si une bonne source confie qu'il pourrait plutôt être non-gambien afin de garantir son indépendance. Ce procureur aura le pouvoir d'enquêter sur des crimes transmis par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, qui avait terminé ses travaux fin 2021 et avait recommandé de juger Yahya Jammeh et ses complices. Une partie des affaires irait devant les tribunaux ordinaires, notamment la Haute Cour et sa division criminelle, spécialement créé pour se pencher sur cette époque. Les faits les plus graves, eux, seraient renvoyés devant une cour hybride Gambie-CDAO dont on attend encore la création. Ces deux textes établissent également un cadre juridique pour la protection des témoins, victimes, lanceurs d'alerte. Ils font la promotion d'une culture de respect des droits humains et renforcent les obligations de la Gambie envers les lois nationales et internationales. On attend désormais la création de la cour hybride. Elle pourrait être approuvée au prochain sommet de la CDAO prévu en juillet. Ces statuts sont en cours de rédaction. Selon une bonne source, elle devrait rassembler juges gambiens et étrangers nommés par le président de l'organisation sous-régionale après une étude des candidatures par un comité de sélection. Enfin, la cour siégera à Banjul, mais pourra organiser des procès dans un autre pays. Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale depuis 2017, ne sera donc pas forcément jugé en Gambie.
Au Togo, la campagne pour les législatives du 29 avril bat son plein sur fond fond de vives contestations de la nouvelle constitution. L'Église catholique elle-même, on s'en souvient, avait émis des critiques. Eh bien voilà qu'on apprend qu'elle ne pourra pas déployer d'observateurs lors du scrutin. Magali Lagrange, la commission électorale a dit non.
Oui, la CENI écrit être au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à la demande de l'Église catholique dans un courrier du 12 avril adressé aux responsables du Conseil épiscopal. La commission électorale refuse d'accréditer la mission d'observation jusqu'à 500 personnes que la commission Justice et Paix voulait déployer pour les élections en raison de l'absence de preuve d'une source de financement. Ce n'est pas la première fois que nous sommes récusés sur ce motif, commente le président de la Conférence des évêques du Togo sur Radio Vatican. La mission d'observation électorale n'avait pas non plus été autorisée pour la présidentielle de 2020. Selon Mgr Benoît Alouonou, les observateurs sont pourtant des bénévoles. Il n'y a donc pas besoin de financement. Mgr Alouonou exprime aussi sa tristesse quant à la modification de la Constitution à quelques jours des élections. Il la juge source de division et d'incompréhension. Au lendemain du premier vote du texte à l'Assemblée nationale le mois dernier, la Conférence des évêques avait déjà appelé le président Fornia Singbe à sursoir à sa promulgation.
Il avait occupé le poste il y a 15 ans en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe devrait donc faire son retour au perchoir. Il a remporté hier la primaire qui était organisée parmi les députés de la majorité présidentielle pour désigner leur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe était face au sortant Christophe Bosso et face à Modeste Baati. Il a été aussitôt reçu par le président Félix Tshisekedi, à qui il a promis la loyauté et des réformes.
Et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler d'armes, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national, que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser les gouvernements, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soit relayé dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans le Turi, il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.
Vital Kamerhe au micro de Pascal Moulégois. Voilà 12 ans qu'il est en prison au Cameroun. Marafa Amidou Yaya sort de son silence dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Ancien secrétaire général de la présidence, il purge une peine de 25 ans pour complicité intellectuelle de détournement d'argent public. Très critique envers le pouvoir, le désormais septuagénaire lance un appel au secours, Pierre Fersion.
Atteint d'un glaucome, Marafa Amidou Yaya a déjà perdu l'usage de l'œil droit. Il craint aujourd'hui pour son œil gauche. « Je perds la vue », explique-t-il. Tous les spécialistes recommandent une opération de la dernière chance pour m'éviter de devenir totalement aveugle. Une opération qui ne peut se pratiquer qu'à l'étranger. Or, ces demandes d'autorisation d'évacuation médicale adressées au président Biya sont restés, assure-t-il, sans réponse. Condamné en 2012, Marafa Amidou Yaya ne comprend pas pourquoi il est encore derrière les barreaux, alors qu'assure-t-il, les 5 autres personnes condamnées dans ce dossier ont toutes été libérées. « Mon maintien en détention, estime-t-il, est la torture que je subis, en particulier à travers le refus de soins, car il s'agit bien de torture en termes juridiques, ne peuvent donc avoir qu'un caractère politique, juge-t-il. » Le septuagénaire estime que son cas n'est pas isolé. Sous ce régime, le recours à la torture est devenu systémique, affirme Marafa Amidou Yaya, qui se dit par ailleurs très inquiet du déclassement progressif du Cameroun. Son idée pour réconcilier le pays, la mise sur pied d'une sorte de commission vérité, réconciliation et refondation, afin d'exposer au grand jour les crimes et scandales d'État.
Vers un dégel des relations entre le Gabon et l'Angola, Libreville n'avait pas apprécié l'activisme de Luanda en faveur du maintien des sanctions de la communauté des États d'Afrique centrale après le coup d'État contre Ali Bongo. L'ambassadeur gabonais avait été rappelé, mais hier il a fait le voyage retour, Yves-Laurent Goma.
Mardi matin, l'ambassadeur du Gabon en Angola était dans la délégation qui s'est rendue dans la capitale angolaise par vol spécial. En décembre, le diplomate avait été rappelé à Libreville pour consultation et n'avait pas repris son poste depuis. La mission d'hier était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndungu. Jean Ping faisait également partie de cette délégation pour ses liens avec la diplomatie angolaise. Quand ce dernier était président de la Commission de l'Union africaine, son directeur de cabinet était l'actuel ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tête. Dès son arrivée à Luanda, la délégation s'est directement rendue au palais de Cidade Alta, où les attendait le président Lorenzo. Quelques heures plus tard, l'ambassadeur n'a pas repris le vol retour vers Libreville. Tout s'est bien passé, l'ambassadeur du Gabon a repris ses fonctions, indique une source gabonaise. Une visite du général Oligui Nguema à Luanda n'est plus impossible, estime une source diplomatique angolaise. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Il est 13h41 à Libreville.
Afrique Midi sur RFI. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas, sur le blues des cacaoculteurs ivoiriens et ghanéens.
Oui, des représentants de coopératives sont venus témoigner à Bruxelles lors de la 5e conférence mondiale sur le cacao. Témoignage sur les difficultés provoquées par la baisse des récoltes. Des problèmes de financement pour la 15e Biennale d'art contemporain de Dakar. Elle doit s'ouvrir le 16 mai prochain, mais l'argent manque. Et puis les sports et les espoirs des boxeurs et boxeuses congolais à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. Payer plus pour un cacao durable, c'est le thème de la 5e conférence mondiale sur le cacao qui se déroule jusqu'à aujourd'hui à Bruxelles. La question du prix payé aux planteurs est plus que jamais d'actualité. La récolte a chuté en Côte d'Ivoire et au Ghana, premier producteur de fèves. Plusieurs représentants de coopératives sont venus témoigner de leurs difficultés, car moins de volume, c'est moins de revenus. À Bruxelles, le reportage de Marie-Pierre Olfan.
Depuis la grande campagne jusqu'à maintenant, on a plus de 600 tonnes, alors qu'on devait honorer un engagement de 1200 tonnes.
Cathy Florence Koulibaly est présidente de la SCAMED, une coopérative de la région de Vavois. Sa grande frayeur, explique-t-elle, est de ne pas arriver à contenter ses acheteurs.
Un contrat, c'est un contrat, il faut l'honorer. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. On fera ce qu'on pourra.
La baisse de production a des conséquences aussi sur l'équilibre financier des coopératives comme celle de Simpa à Agboville. Elle a réussi à fédérer cette année plus de producteurs et a donc aussi engagé plus de frais, comme l'explique Moussa Sawadogo, le président du conseil d'administration.
Ça a créé des problèmes financiers parce qu'avec l'augmentation des producteurs, on a aussi augmenté le nombre de camions, on a augmenté le nombre de nos motos, on a aussi fait des prêts aux producteurs qui ont traité les plantations, mais malheureusement, les planteurs n'ont pas pu rembourser tout parce que les plantations n'ont pas pu produire comme il se doit.
La frustration est d'autant plus grande pour ces responsables de coopératives qu'ils ne profitent pas encore de l'explosion des cours du cacao sur les marchés mondiaux.
La 15e Biennale de l'art africain contemporain pourra-t-elle s'ouvrir comme prévu le 16 mai à Dakar? Ce rendez-vous artistique de renommée mondiale se tient tous les deux ans dans la capitale sénégalaise. Mais pour cette édition, les financements font défaut, Léalisa Vesterhoff.
Les deux derniers versements qui devaient être faits par l'État et ceux avant la présidentielle n'ont pas été honorés, confirme une source proche du dossier. Sur le budget d'1,5 milliard de francs CFA prévu par l'État, moins d'un tiers serait actuellement disponible, selon un membre du comité d'organisation. Sans ce budget, impossible de payer le transport des œuvres d'artistes africains qui viennent du monde entier, d'éditer un catalogue ou encore de loger les artistes, selon cette même source. Et à 22 jours de l'ouverture de la biennale, même si les fonds devaient être finalement trouvés, le délai est de plus en plus intenable pour garantir l'arrivée des œuvres à temps, notamment par bateau. Résultat, certains plaident pour un report de la biennale à novembre prochain. Un coup dur pour cet événement qui, depuis sa création en 92, n'a été reporté qu'une seule fois en raison du Covid. Une réunion doit trancher sur le maintien ou le report de la biennale aujourd'hui. Est attendu aussi un arbitrage de la nouvelle ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadidi Ngaye, qui hérite malgré elle des dettes laissées par le gouvernement précédent. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Sénégal où l'activiste guinéen Djibril Agui Sylla a été interpellé hier soir par la division des investigations criminelles suite à une demande émise par Interpol Guinée. Il est une voix critique du régime du colonel Doumbouya. Son avocat, maître Amadou Kam, se dit inquiet de son possible renvoi vers son pays d'origine. Les sports, c'est l'une des disciplines phares des Jeux Olympiques où une médaille booste souvent la carrière des professionnels. On parle de boxe et la République démocratique du Congo est pleine d'espoir. Parmi les meilleures chances du pays, une femme, Marcela Sakobi Matsu, elle est rentrée hier au pays. Autour de son cou, la médaille d'or de la Mandela African Boxing Club, Boxing Cup, un tournoi organisé en Afrique du Sud. Il lui a servi de test, Olga Massangou, à moins de 3 mois des Jeux de Paris.
Stoppée en quart de finale aux derniers Jeux africains au Ghana, Marcela Sakobi a rebondi au tournoi Mandela African Boxing Cup en remportant une médaille d'or chez les moins de 57 kilos. La boxeuse congolaise qui se prépare pour les JO revient sur ce qui a fait sa force, un grand changement qui lui a valu une belle victoire en demi-finale sur arrêt de l'arbitre au premier round.
J'ai commencé à m'engager, j'ai changé ma boxe, j'ai commencé à affronter les gens sans reculer. C'est pourquoi je fais des arrêts à la première round cette fois-ci.
Comme Sakobi, c'est toute la délégation congolaise qui a presque tout raflé en Afrique du Sud avec 19 médailles, dont 10 en or, fruit du travail de fond, souligne Chilombo Mukadi, l'un des entraîneurs.
C'était vraiment difficile. Il y avait des grands combats, il y avait des bons boxeurs qui étaient là. On avait une équipe vraiment solide. On a essayé un peu d'échanger les tout. Voilà, on a réussi ce qu'on a eu.
En multipliant les tournois, l'objectif est très clair pour la Fédération de boxe de la RDC, remporter la première médaille olympique, un rêve que nourrit son président, Ilunga Luyoyo.
On vise les Jeux olympiques. Pour une fois que le Congo puisse avoir une médaille olympique, je crois que ça viendra de la boxe. On a, sous le plan professionnel, Junior Makaba, vous avez vu, il était champion du monde du WBC. Avec la boxe amateur, nous visons une médaille.
Après l'Afrique du Sud, la Thaïlande est la dernière étape avant d'atterrir à Paris. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Du football, on connaîtra la semaine prochaine les 3 finalistes du prix Marc Vivien Foé, décerné chaque année par RFI et France 24 aux meilleurs footballeurs africains de la saison en Ligue 1. Ils sont encore 11 dans la course et comme chaque jour, on revient sur le parcours de l'un d'eux. Aujourd'hui, Kylian Tanguy nous retrace celui du Burundais Youssouf Ndayishimiye.
Il est l'un des joueurs incontournables de l'OGC Nice cette saison. Titulaire et sur le terrain du coup d'envoi au coup de sifflet final, Youssouf Ndayishimiye a toute la confiance de ses coéquipiers et de son entraîneur Francesco Farioli, même après une erreur qui engendrait un match nul face à Lorient.
Il a fait un match incroyable, surtout sans le ballon. Il a apporté un très bon équilibre, il a couvert un terrain énorme et il a bien géré 99% des ballons. Malgré l'erreur, il a fait un très gros match. C'est sûrement pour ça que le reste de l'équipe lui est très reconnaissant.
Et ça tombe bien, le défenseur burundais pense avant tout au collectif.
Mon but, c'est de jouer tous les matchs possibles pour aider l'équipe, pour aider mes coéquipiers. Peu importe là où le coach met latéral droit, met attaquant, numéro 9.
De retour sur le terrain vendredi dernier, après s'être blessé début mars, Youssouf Ndayishimiye a beaucoup manqué à son équipe. En son absence, Nice, qui prétend à une place européenne, n'a remporté qu'un seul des 5 matchs disputés.
Il est 14h48 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce mercredi 24 avril 2024.
À la une, il y a l'inquiétude du chancelier allemand Olaf Scholz. Juge très très préoccupante les accusations contre l'AfD. Parti d'extrême droite, un collaborateur de la tête de liste a été arrêté, accusé d'espionnage au profit de la Chine. C'est d'autant plus malvenu que le parti est déjà mis en cause pour ses liens troubles avec la Russie. L'Union européenne réclame à son tour une enquête indépendante après la découverte de fosses communes dans les 2 principaux hôpitaux de la bande de Gaza. Le territoire palestinien, toujours sous les bombes israéliennes. Le Hamas au pouvoir à Gaza déplore désormais plus de 34 200 morts. Le secrétaire d'État américain est en visite en Chine. C'est la 2e en moins d'un an pour Anthony Blinken. Son objectif est notamment d'augmenter la pression sur Pékin dans différents dossiers, comme par exemple son soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. L'insécurité alimentaire s'est aggravée dans le monde l'année dernière. Près de 282 millions de personnes ont eu besoin d'une aide d'urgence sous l'effet des conflits, notamment en Ukraine, on en parlait, ou à Gaza. Et puis, une première en Colombie, la justice colombienne reconnaît que le changement climatique et certains impacts environnementaux constituent une cause de déplacement forcé. C'est une décision sans précédent dans un pays qui compte des millions de déplacés. On en reparle dans une demi-heure, mais pour l'instant, Afrique Midi se poursuit. Avec votre invité Nicolas Sûr, Samira Daoud, directrice du bureau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale d'Amnesty International. L'organisation publie aujourd'hui son rapport annuel sur les droits humains.
Bonjour Samira Daoud.
Bonjour.
Que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient, de nouveaux théâtres de violations massives des droits de l'homme ont accaparé l'attention médiatique internationale ces 12 derniers mois. Comment le continent africain, lui, s'en est-il sorti ?
Alors malheureusement, le continent africain ne s'en est pas mieux sorti que les pays que vous, les zones que vous venez de mentionner. Les conflits ont continué à avoir des effets dévastateurs sur le continent africain, avec cependant une attention de la communauté internationale nettement moindre. Mais partout sur le continent, que ce soit au Soudan, en RDC, dans le Sahel ou dans la région du lac Tchad, les conflits ont persisté et affectant plus particulièrement les populations civiles et en particulier les femmes et les enfants.
Quelle est la plus grave crise que vous avez enregistrée ?
Alors, il y a plusieurs crises, mais effectivement, au Soudan, en 2023, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide se sont montrées particulièrement peu soucieuses du droit international humanitaire en menant des attaques ciblées qui ont tué et blessé des civils, avec plus de 8 millions de personnes qui ont été forcées de fuir. Mais au Sahel, la situation n'était pas meilleure puisque le conflit a persisté, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, faisant de très nombreuses victimes parmi les civils.
Alors vous l'avez dit, hein, ce sont bien les civils qui se retrouvent en première ligne dans ces conflits armés. Est-ce que ça s'est encore aggravé par rapport aux années précédentes ?
Oui, malheureusement, c'est le fait à la fois des groupes armés, que ce soit dans la région du lac Tchad ou au Sahel, mais c'est aussi des violations qui sont commises par les forces régulières. On a pu le voir au Burkina Faso avec le massacre qui a été commis dans le village de Karma, près de 150 personnes qui avaient été tuées par des militaires burkinabés accompagnés des volontaires de la défense de la patrie, les supplétifs de l'armée. Un peu partout, les civils continuent d'être ciblés, et ceci dans la plus totale impunité, puisque jusqu'à présent, la plupart des procédures qui avaient pu être initiées sur ces cas de crimes contre les civils, que nous avons d'abord d'ailleurs nous-mêmes documentés, n'ont donné aucune suite. Deux ans après le massacre de Moura, où plus de 500 personnes avaient été tuées par l'armée malienne et des supplétifs étrangers, la procédure initiée à l'époque à Mopti reste au point mort.
Une impunité donc au niveau national, mais veiller au respect des droits, c'est aussi le travail de l'ONU. Votre secrétaire général, Agnès Callamard, décrit une organisation des Nations Unies paralysée par plusieurs des permanents du Conseil de sécurité. Les États-Unis, la Chine, la Russie notamment, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne donnent pas toujours l'exemple. Est-ce que ça aggrave considérablement la situation ?
Oui, je crois que ça, c'est un des éléments les plus inquiétants et les plus préoccupants pour nous, parce que nous sommes très probablement un tournant dans l'histoire du droit international. Nous avons pu observer une indignation tout de même très sélective, de même que des réactions des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur à la fois de la gravité de la situation et des valeurs qu'ils sont censés porter. Nous avons vu y compris des institutions telles que l'ONU complètement paralysées, et en particulier le Conseil de sécurité, du fait du veto de certains États membres permanents, et notamment les États-Unis, et donc des États qui semblent abandonner complètement les États même qui ont été à l'origine aussi de la création de ce système fondé sur le droit international et visant à protéger les populations.
Il y a également dans ce rapport annuel un chapitre consacré à un droit dont on parle parfois moins, c'est celui à un environnement sain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce droit est mis à mal par les effets du changement climatique. Quelle est la solution pour les États concernés, en Afrique notamment, puisque c'est là que les effets de ce changement se font le plus sentir, des États qui bien souvent manquent de moyens?
Pour la première fois en septembre dernier, un sommet africain sur le climat s'est tenu à Nairobi pour essayer d'élaborer une position unifiée des pays africains sur cette question-là. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'encourager en tout cas les États africains à prendre des mesures immédiates pour protéger les populations, donc à travailler sur les questions d'adaptation et aussi de faire en sorte que les pays développés adoptent des politiques qui permettent de remédier à ces situations et qui permettent d'accompagner les États qui vont être les premiers touchés par les effets du changement climatique, en l'occurrence sur le continent africain, que puissent être prêts à faire face à ce phénomène.
Une dernière question, Samira Daoud. Dans ce tableau globalement sombre, est-ce que vous avez constaté ou relevé tout de même une ou des raisons d'espérer?
Oui, toujours. Il y a aussi eu des changements sur le continent africain et je vous parle du Sénégal où on a eu des sueurs froides du fait d'une situation qui semblait très problématique et qui,
avant
au final...
Avant
la présidentielle, avec une répression assez importante et des craintes par rapport à l'avenir. Et aujourd'hui, en tout cas, une transition qui s'est faite de manière entièrement démocratique et pacifiée et qui, on l'espère, donnera lieu à des changements aussi sur le plan du respect du droit.
Merci Samira Daoud. Je rappelle que vous êtes directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique podcast onglet. Invité d'Afrique Midi. Dans quelques jours, l'Afrique du Sud va fêter les 30 ans de la démocratie. Le 27 avril 1994, les premières élections libres de l'histoire du pays mettaient un terme à l'apartheid et consacraient l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela et de l'ANC. Une journée historique sur laquelle nous revenons dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, gros plan sur la question de la redistribution des terres. Les populations noires n'y avaient quasiment pas accès durant le régime ségrégationniste. L'ANC a voulu réparer cette injustice en achetant des milliers d'hectares et en les redistribuant aux communautés spoliées. Mais ça n'a pas entièrement marché. Au Salon des jeunes agriculteurs de Pretoria, le reportage de Romain Chanson.
Porchiam Dlovu est invité à monter sur scène pour partager son expérience. En 2010, l'État a racheté et redonné les terres que sa communauté réclamait.
Sous l'apartheid, ils ont exproprié les gens des fermes car ils avaient conscience du potentiel économique de leurs terres. Nos grands-parents ont été déplacés dans des zones rurales où le sol n'était pas cultivable.
Une fois la terre restituée, un conseil d'administration veille à l'exploitation de la terre au bénéfice de tous. Ici, des terres agricoles, là des projets immobiliers qui génèrent des profits redistribués sous forme de revenus ou de bourses scolaires. C'est ce qui motive le collectif.
Tout le monde veut que ça marche. Ils partagent les mêmes objectifs, ils travaillent ensemble et ils impliquent toute la communauté.
Mais cet état d'esprit manque dans la majorité des associations de propriété communale, les structures qui reçoivent les terres. Seuls 7% d'entre elles fonctionnent correctement. Ces associations regroupent des centaines, parfois des milliers d'individus qui peuvent entrer en conflit, regrette le journaliste agricole Tissetso Manoko.
Les principaux problèmes traversés par les associations communales sont la mauvaise gestion financière, la mauvaise gestion des ressources et des conflits d'intérêts. De nombreuses figures du monde agricole et même le gouvernement se demandent si on a vraiment besoin de ces associations.
Le parti d'opposition, l'Alliance démocratique, appelle à les supprimer pour favoriser la propriété individuelle. Il faut surtout ajuster le dispositif, défend Rampi Bapela, spécialiste en développement agricole pour une filière du gouvernement.
Au lieu de donner les terres à tout le monde, il faudrait identifier les jeunes fermiers au sein de ces communautés, prêts à exploiter la terre immédiatement. C'est une chose de redistribuer la terre, mais s'il manque la technique, si les communautés ne sont pas préparées, il faut une approche intégrée.
Alors que ce programme fonctionne mal, le parti radical de l'IFF appelle à une réforme polémique, la nationalisation de toutes les terres. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Et c'est ainsi que s'achève cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous pour votre attention.
Merci Nicolas Sûr. On se retrouve demain, mais vous ne bougez pas. On reste ensemble pour une demi-heure encore. RFI Midi, suite et fin. Nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Je vous retrouve dans quelques instants. Deux autres options selon votre zone d'écoute. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pourrez retrouver une demi-heure d'informations en full day. Et si vous vous trouvez en Afrique lusophone, notre session en langue portugaise. Merci à tous. Donc, dans tous les cas, vous restez avec nous. Très bonne journée à tous. N'oubliez pas, l'information est aussi sur RFI.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Est-il vraiment possible d'éradiquer le paludisme ?
Vendredi.
Émission Questions de femmes, les maladies et troubles de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Eric Delphin Kogui, auteur de théâtre camerounais, prix RFI Théâtre 2023.
Si comme Eric Delphin Kogui, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, il est encore temps d'envoyer vos textes, drames ou comédies avant le samedi 27 minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs et chères autrices, je vous invite tous à postuler pour le prix RFI 2024. C'est maintenant.